Yo! See, go to where you at. D. Rockefeller. Caesar Leo De Janeiro. Blitz C. Money SL. B.I.G. is making this cream. Bitches always say, what the hell does that mean? B is for the bitches who can't understand. A one fly nigga became a man. Eyes for the way it goes in and out. One by one, I knock them out. G is for the way the cake goes in the gut. Other MCs, man, they ain't saying nothing. Rocking on to the break of dawn. Beat the bitch, get the pussy, get the math, I'm gone. What? It ain't no more to it.
Le jour de gloire est arrivé. Lundi, les amis. Bienvenue sur Te Casse l'émission 88.4. Brochette exclusif. Aujourd'hui, c'est foutage de gueule. Donc, soyez prêts, soyez rodés, soyez attentifs. Après ce son, on va vous régaler.
J'ai commencé ma vie sans toi, j'ai pas terminé sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde, les premiers rendez-vous qu'on se faisait en zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Mais parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. J'ai le cœur trop dur pour ça, faut me pardonner. Et dans sa tête c'est Cafou, Cafou. Va pas plus loin, ton cœur c'est moi et c'est tout Tes copines me regardent trop chelou, chelou. De haut en bas, comment pas de danse de Katou, Katou.
On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. Et c'est moi qui te parle. Et le couple c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle. Le couple c'est nous deux. Ah mon bébé. 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 Bébé. Ah mon bébé. Passe mieux commence d'abord par grandir. Tu poses les mêmes questions 100 fois, ça va mal finir. Si t'écoutes tout le monde, nous deux, ça va pas durer. C'est toi qui vas donner la force à nos ennemis. Dans toutes les bouches, c'est d'ajou, d'ajou. Tu n'as pas compris que là-bas, c'est tous des jaloux, jaloux. Les gens qui passent sont partout, partout. De gauche à droite, comme un pas de danse de chapeau, chapeau. On cherche à nous barrer la route. Écouter les gens, c'est douloureux. Je veux même pas savoir qui te parle. Et c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Trouve un juste milieu. N'écoute pas les gens qui te parlent. Quand c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Ah mon bébé.
Nous Nous revoilà sur Tocas l'émission 88.4. Donc là, aujourd'hui, c'est spécial foutage de Gaulle. Donc là, nous avons un plateau, on va dire, fraîchement garni, avec des invités plus motivés que jamais. Donc nous allons commencer ici par Julien. Comment vas-tu, Julien ?
Ça va, hein, tranquillement. Victoire ce week-end, donc on a pu aborder la semaine sereinement.
Ok, ça me plaît bien. Mais toi, finalement, comment vas-tu ?
Je vais bien.
Ok, ce week-end s'est bien passé ?
Oui, nickel.
Ouais ? Ah, super. Et qu'est-ce que tu as fait de beau, en fait ?
J'ai pu profiter. Hein, L'OM a joué vendredi soir à gagner.
Ouais.
Donc après, j'étais tranquille. J'ai pu me reposer la tête au calme.
Au calme ?
Voilà.
Ah, tu es un mec serein, toi, ce que je vois.
Moi, j'aime le repos. J'aime le repos, c'est ça.
Coco, comment ça va ?
Comment tu vas, mon ami ?
Comment ça va, Coco ?
Ah, pardon, excuse-moi.
Ah, ok.
Écoute, très bien, très bien. Comme l'a dit Juju, une victoire olympienne ce week-end. Donc écoute, très bien. Moi, ce que j'ai fait ce week-end, écoute, je suis allé voir Lompal.
Lompal ?
Lompal, le rappeur.
Ah bon ? Ah, le rappeur, Lompal.
C'est ça.
Ok.
Il passait en concert au Dôme. Très, 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 très bon concert.
Ouais.
Voilà, s'il y en a qui y étaient. Très, très bel artiste, plein de dynamisme. Donc, c'était très appréciable.
Abbas, comment ça va ?
Ça va bien, un peu fatigué.
Ah ouais ?
Ouais, j'ai passé un petit week-end à Nice.
Ah, à Nice ?
Ouais, il pleuvait un peu, mais ça va.
Ah, super, tu as passé un bon week-end du
ouais,
coup ?
Ouais, tranquille. Malgré la pluie. Mais c'est pas, y a pas mieux que Marseille.
Ah, c'est vrai, à chaque fois que je sors, ouais. Hein, ça c'est pas moi que tu vas dire le contraire. Hein.
C'est clair.
Quant à moi, ça va. Écoutez, franchement, un week-end fabuleux. Effectivement, je vais un peu ressasser les arguments de mes camarades. Hein. La victoire de l'OM, bien sûr, a fortement contribué à ce week-end ensoleillé, hein, on va dire, contrairement à Nice, comme l'a exprimé Abbas. Mais là, du coup, l'émission du jour, c'est foutage de Gaulle. Donc, Coco, il y a le numéro en face de toi, lequel nos auditeurs pourront intervenir. Tu
ouais.
peux leur annoncer ?
Ouais. Si vous voulez intervenir dans l'émission, donc c'est au 04 91 08 28 10. Donc voilà, vous pouvez intervenir à tout moment pour casser des jambes, envoyer un tacle à la gorge, comme on dit.
Super. Donc là, après ce son, effectivement, nous allons passer à le menu du jour, hein, comme vous a longuement exposé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts à débattre de ce menu du jour assez garni, les amis ?
Ah, on est chaud.
Je pense qu'il y a des choses à dire.
Ouais, c'est
ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Donc là, on va passer un son qui va un peu refléter le débat foutage de Gaulle. Et préparez-vous, on va passer au menu du jour, bien évidemment. Et est-ce que vous reconnaissez ce son ?
Qu'est-ce que tu vas nous mettre ?
Ah, écoute-moi ça.
Régale-nous.
Oh là là.
Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel me dit. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel me dit. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel me dit. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel me dit. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison.
And attaquant défense Polo. Polo, Paul Pogba. La pioche Polo. Polo, Paul Pogba. Ramenez la coupe à la maison.
Sur Te Casse l'émission 88.4. Corentin, peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, le numéro afin que nos auditeurs puissent nous contacter, s'il te plaît?
Alors, 04 91 08 28 10.
Super. Alors là, est-ce que vous êtes prêts à attaquer le menu du jour?
Allez, on est chaud.
On est chaud.
Donc là, on va commencer l'entrée par Balotelli sauce basilic.
Sauce basilic ?
Exactement. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, sauce basilic ?
Non.
Ok.
Dis-nous.
Donc là, on va commencer cette entrée en matière. Alors, pour moi, je me mouille. Pour moi, alors, il y a eu beaucoup de controverses suite à l'arrivée de Mario Balotelli. On va dire que l'ensemble des journalistes sportifs, entre guillemets, sportifs français, ont décrié cette venue. On crie au scandale, oui, Balotelli est HS, c'est un mauvais choix, de la part de l'Olympique de Marseille, il ne va rien nous apporter, son salaire est exorbitant, une fois de plus, il nous montre leur incompétence, et Zubizarreta ne s'est pas imposé. Actuellement, on a un léger bilan, à savoir 3 matchs, 2 buts. Avant de vous donner, clairement mon avis, je vais commencer par Julien. Alors, ton avis, explicite-nous pour toi l'apport de Mario Balotelli au sein même de notre cher club, l'Olympique de Marseille.
Alors, déjà, c'est son sens du but. Voilà, on a pu le voir par rapport à Kostas Mitroglou, même Valère Germain, par rapport au nombre de frappes tentées sur la première partie de la saison. C'est vraiment un mec comme ça que je pense qu'il manquait à l'OM. Je pense qu'au niveau des occasions, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec prendre le ballon et tirer de loin ou provoquer comme ça des occasions. Et c'est ça que je pense qui manquait vraiment à l'OM pour manquer des buts. Et ce genre de joueur qui peut faire basculer un match. Plus après son apport au niveau physique, au niveau technique, même si je pense que contre Dijon, il a raté 2-3 trucs, certaines passes ou certains mauvais choix. Mais bon, quand on compare avec ses prédécesseurs, je pense que son apport est indéniable et qu'il peut vraiment faire beaucoup de bien à cette équipe.
Julien, honnêtement, t'as envoyé du lourd. Bon. Premier avis. Maintenant, Coco, la même chose qu'avec Julien. Qu'en penses-tu ?
Ouais. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que dit Julien. Et je rajouterai donc au-delà de l'aspect technique, hein, purement technique. Donc, c'est sûr qu'il y a un apport qui est indéniable. Hein, mais au niveau psychologique, je pense. Au niveau psychologique, au niveau de l'équipe, t'as Mario Balotelli dans l'équipe. Clairement, c'est autre chose que Kostas Mitroglou. Ça pèse sur une défense adverse et psychologiquement, tu sais que tu peux envoyer le mec au charbon devant et que s'il a une occasion, il va la mettre. Après, au-delà de ça, je pense que ça, ça donne aussi à Garcia une possibilité tactique en plus. Parce que rappelons-nous que depuis la saison dernière et depuis le début de saison, on joue essentiellement en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Et là, ça t'apporte quand même le match qu'on a vu contre Dijon vendredi, où tu joues en 4-4-2 avec Valère Germain. Donc peut-être l'hypothèse que Valère Germain devienne un titulaire, parce qu'il a été mis au placard pendant un bon bout de temps. Et on voit que s'il est associé à Mario Balotelli, c'est quand même plus prolifique quoi, pour les deux. Donc je pense qu'en plus de l'apport technique, il y a l'apport psychologique et l'apport tactique également pour Garcia. Une nouvelle solution pour un nouveau schéma de jeu.
Vous êtes en train de me griller petit à petit mes arguments.
Ah, excusez-moi.
Abbas, donc, qu'en penses-tu ?
Ben moi, je suis d'accord avec Julien Coco. Par contre, voilà, là, en France, vous savez comme c'est, hein, y a beaucoup de jalousie avec les attaquants étrangers. Bon, Balotelli, de toute façon, c'est le joueur qu'il nous faut à l'OM. C'est le Fada. À Marseille, on a besoin de Fada. Et par contre... Ce que je comprends pas moi par rapport aux deux attaquants qu'on avait, c'est que Mitroglou et c'est Garcia qui l'a choisi. Quand on parle du salaire exorbitant, eh ben c'est quand même Mitroglou, il a 320 000 euros brut et il joue pas. Germain, il est pas à eux deux, c'est le salaire de Balotelli. Et Balotelli en trois matchs, comme tu l'as très bien dit, eh ben il a le meilleur ratio que les deux attaquants qu'on a.
C'est vrai.
Donc voilà, donc moi je suis content. Moi déjà, en plus l'OM va être bénéficiaire parce que l'OM, en merchandising, tous les petits commencent à acheter les maillots de Mario Balotelli, donc ils sont gagnants l'OM. Même en 6 mois, en 4 mois,
ils sont gagnants. C'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est aussi le choix qui avait été vivement critiqué par la presse. Oui, Balotelli, il vient que pour 6 mois, qu'est-ce que c'est ce contrat, etc. C'est peut-être là le coup de génie de la nouvelle direction, en sachant que Balotelli, sur 6 mois, il allait pouvoir s'impliquer 6 mois à fond. Et que voilà, au niveau des ventes de maillots, comme tu le rappelais, et au niveau du plan sportif, où il allait tout péter, quoi.
Après, c'est au niveau de la prise de risque aussi. C'est pas.
Oula, tu m'intéresses. La prise de risque, là, je.
On pouvait se poser la question après ces 6 premiers mois à Nice et ces pétages de plomb qu'il a pu avoir plus tôt dans sa carrière. On pouvait se demander comment il allait réagir. Moi, pour ma part, j'étais content de son arrivée parce que c'était tout. Je me suis toujours dit que c'était mieux que ce qu'on avait. Mais voilà, j'avais toujours quand même ce petit doute à me dire soit quitte ou double, ça passe ou ça casse. C'est soit il flambait direct, ça allait être une idole, et là, c'était gagnant à 100%. Soit ça marchait pas, et après, ça allait être dur. Mais pour l'instant, je pense qu'on est plutôt sur ça passe que sur ça casse.
Pour répondre à ce que tu disais, Julien, de toute façon, moi, je suis pas étonné parce que quand même, Balotelli, il a été formé à l'Inter et il est passé au clan ennemi, au Milan. Et quand même, dans ces deux clubs, en ratio but, il est pas mal. Je crois qu'il a 15-16 buts par saison. Donc moi, je m'inquiétais pas parce que franchement, on avait le fond, du fond, comme on dit. Parce que Mitroglou, je ne sais pas, vous avez vu à Galatasaray, il est déjà décrié et déjà conspué par les supporters de Galatasaray. est-ce qu'en Turquie, ils ont la télé là-bas Est-ce qu'en Turquie, ils ont la télé? Je ne comprends pas, moi. Avec tout ce qu'il y a, même Internet, ils ne regardent pas les matchs.
Mais c'est vrai que, bon, personnellement, alors moi, contrairement, par contre, on va dire là où je mets un petit bémol à ce qu'a dit Julien, et bon, le reste des arguments étaient très, très recevables et je le partage entièrement. C'est sur la prise de risque. Pour moi, je n'ai eu quasiment aucun risque. Pour moi, il n'y a pas de risque. Pourquoi ? Parce que si tu veux Balotelli, si on essaye de faire un peu de la science de bas étage, c'est un joueur qui s'adapte facilement à un effectif à court terme, court, moyen, long terme. Long terme, c'est vraiment, on va dire, sur plusieurs clubs rattachés. Mais là, lorsqu'il est arrivé à l'OM, effectivement, il a négocié. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les 10 buts.
Les 10 buts, les 100 000 euros.
Eh oui, lui, c'est un attaquant sûr. Il faut partir de la base. La base pour un joueur, c'est son agent. Et lorsque vous prenez l'agent de Mario Balotelli, donc
Mino Raiola,
le meilleur agent du monde, je ne dis pas le meilleur agent du monde, ce gars, lorsqu'il prend un joueur, c'est qu'il est sûr de son potentiel. Quand il est parti à Nice, la première année, il savait qu'il allait faire une première année explosive et qu'après... on va dire la descente, parce qu'effectivement il a mal vécu certaines situations à Nice et certains départs aussi qui ont largement affaibli l'équipe. Hier j'écoutais un reportage sur Saint-Maximin d'ailleurs, qui souffre aussi hein, à Nice par rapport à ses performances. Il est autant décrié à Nice, mais comme ils n'ont pas le choix, ils le font jouer. Mais à l'OM, si tu veux, effectivement, il a. C'est là où on va revenir pour la transition à Garcia. Mais comme l'a très bien dit Abbas, il a toutes les dispositions, un peu à la Drogba, tu vois, un peu, ça me fait penser un peu à la Drogba à l'époque où on balançait des ballons devant et démerde-toi. Mais là, il ne faut pas oublier, je rejoins ce que tu dis, Coco, qu'on n'a pas donc Gustavo, on n'a pas Payet, Rami, tu vois, il est là, mais bon, voilà, non, c'est voilà, exactement. Juste. et le positionnement de tu disais Coco
de Germain,
à moi, il me régale. Mm-hmm. Pour une fois. Et il a fait du coaching, Garcia. Pour une fois, là, il plane, quoi. Ah oui, je pense que, effectivement, si on arrive à associer après, moi, ma crainte, par contre, pour terminer sur ça, avant de vous laisser la main, c'est Gustavo. Et j'ai peur qu'effectivement, si Germain, comme l'a si bien dit Coco, est titulaire à ce poste, eh ben, il va encore nous gaspiller donc, Gustavo en défense. C'est une infamie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, mais moi, tu vois, Gustavo, je sais pas, mais je serais plus inquiet, tu vois, pour le Capayet. Pour le Capayet, parce qu'on sait que sur un côté, il a du mal, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et on sait que le 4-2-3-1, c'était vraiment pour lui. Garcia, il avait taillé ce système de jeu pour lui, pour le mettre en 10 et qu'il n'ait pas vraiment de tâches défensives à réaliser. Donc, pour moi, si Payet ne revient pas à son meilleur niveau, comme c'est le cas depuis le début de la saison, il risque d'y avoir match. Quoi. Sans les cadres, si l'équipe commence à tourner, parce que là, on a enchaîné 2 victoires. Je pense qu'il peut y avoir débat. Quoi.
Ouais, débat. Qu'est-ce que tu en penses, Julien, sur l'argument de Corentin par rapport à la capacité de Payet?
Moi aussi, je suis assez d'accord avec ce que dit Corentin. Après, pour plaider en faveur de Payet, c'est plus des performances parfois en demi-teinte d'Ocampos qui peuvent lui laisser un espoir. Après, si Ocampos commence à mettre des buts comme il a mis ce week-end à tous les matchs,
ça va être compliqué. Oh, le but qu'il a mis, même lui, il a dû se réveiller à dire qu'est-ce qu'il fait. Crochet. Oh, il a mis une frappe à la.
Surtout qu'à l'échauffement, il les mettait toutes en dehors du cadre.
Il a fait un croix carré là.
Ouais, c'est fou. Moi, donc pour... là, Abbas, qu'est-ce que tu en penses?
Pour revenir à ce que disait Coco, pour moi, en fait, Balotelli, je veux dire, c'est le joueur parfait pour Payet. Parce que Payet, en fait, c'est on appelle ça un distributeur. Il donne des galettes. Et c'est vrai que là, ce qui est bien pour l'OM, si Payet revient, c'est que dans le même match, on peut passer du 4-2-3-1 au 4-4-2 en sortant Payet et en faisant rentrer Germain. Ça veut dire que là, l'OM aura plus d'armes offensives. C'est-à-dire si le match il est bloqué, on peut commencer avec Germain, après finir avec Payet. Mais je sais que Payet, je veux dire, comme tu le disais, c'est pas un joueur de côté. Et moi, je voyais plus aussi le petit Radonjić. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. C'est vrai que, comme tu disais, pour répondre à ce que tu disais, Gustavo, c'est vrai que Garcia, il abuse avec Gustavo. Pour moi, en 6, c'est son meilleur poste. En plus, ce qui est bien, on voit Strootman, il est en train de revenir en force. Et pour finir, ouais,
franchement,
moi, je suis.
J'en doutais en plus. Hein.
Ouais, Strootman, il est en train de revenir en force. Et moi, franchement, Payet, moi, j'y crois. Et Payet et Germain, j'y crois, moi.
Alors du coup, une belle transition. Alors là, on va avancer. Garcia, problème gastrique. Donc, pourquoi cette appellation? Parce que moi, finalement, il me débecte. Je déteste ses coachings. Malgré ses résultats positifs, je ne me fais pas enfumer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de stabilité dans cette équipe. Je trouve qu'il n'arrive pas à optimiser ses joueurs. Au niveau donc de la disposition, c'est réellement visible. Hein. On peut très bien décrier certains joueurs, comme par exemple Mandanda, qui est un peu, en baisse de forme.
Surpoids aussi.
Surpoids, oui, bien sûr, tout à fait. Mais même si j'essaye de le défendre tant bien que mal face à Coco de temps en temps. Donc au fait, pour moi, la question que je vais vous poser, c'est Garcia. La solution Garcia, est-ce vraiment la seule solution pour l'OM? Sinon, avez-vous une autre solution? Si oui, ben, expliquez-moi, en fait. Hein. Donc, Julien, explique-moi.
Ça dépend. Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend déjà au niveau financier. Est-ce que l'OM a les moyens de licencier Garcia et a les moyens de prendre un autre entraîneur qui peut apporter vraiment quelque chose à l'équipe? Parce que si c'est pour virer Garcia et prendre Roland Courbis après, bien que j'apprécie le personnage.
Ah, t'apprécies Roland.
Je pense pas que ce soit bénéfique pour l'OM. Ça me fait réfléchir après sur la gestion qu'ont eu les dirigeants par rapport à la prolongation de Garcia.
Ah, c'est clair.
Voilà, je trouve que c'est. Ils se sont emballés. Voilà.
Ils se sont emballés.
Je pense.
Intéressant, Coco, pour toi ?
Je pense que personne n'est dupe sur la saison qu'on est en train de vivre. Et que même si par miracle on arrive à accrocher le podium avec la Ligue des Champions, je pense que cette saison-là, ça a été vraiment une galère totale, quoi. Hein. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais et sur ce que disait Julien, ça a été un échec des dirigeants, mais en fait rappelle-toi la dernière émission, je sais pas si tu t'en souviens Zizou, tu étais là, Babas avait eu une analyse très fine.
C'est pas toi Babas, c'est un autre
c'est pas le même,
parce que c'est Babas aussi.
Il avait eu une très belle analyse et il avait dit que l'OM était géré comme une entreprise multinationale. Donc,
entreprise du spectacle,
une entreprise du spectacle où là ils regardaient les finances, donc ils voyaient que s'ils dégageaient Garcia maintenant, ça leur coûtait 15 millions d'euros. Donc, ce que tu disais, un énorme trou financier. Et s'ils le laissent jusqu'à la fin de la saison, en fait, ils ont fait dans son contrat des clauses comme quoi s'ils remplissaient pas les objectifs, ils pouvaient le dégager sans prime. Donc, du coup, je pense qu'ils sont tellement dans une logique financière que. Ils se sont dit, bon, on voit jusqu'à la fin de la saison. Au pire des cas, la saison est ratée parce que là, c'est déjà très mal engagé. Donc, je pense qu'ils sont plus dans cette logique-là. Okay. Et maintenant, ils vont rester sur ça. Donc, on va avoir droit à Garcia jusqu'à la fin de la saison. Mais ça ne cachera pas que cette saison, pour moi, au niveau du jeu, est très décevante. Et au niveau des résultats, jusqu'à présent, a été très, très, très décevante aussi.
Et toi, Abbas, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je suis d'accord avec Coco et Julien. Mais par contre, ce qu'on oublie, c'est la finale de l'année dernière. Moi, l'année dernière, j'étais le premier... détracteur de Garcia, parce que l'année dernière, si vous avez la mémoire et le souvenir, le quart de finale, le stade Vélodrome était vide en Ligue Europa, même en championnat. Après, ce qu'il a su faire, c'est donner une dynamique de groupe. Donc l'année dernière, c'était une équipe de copains qui allait en finale. Mais après, moi, ce qui m'a déçu l'année dernière, c'est qu'on était à 8 points de Lyon. Et après, derrière, on a fait comme avec Bielsa. C'est qu'on était champion d'automne et là on est descendu.
On s'est effondré.
Moi l'année dernière, je me voyais en Ligue des Champions, voir les beaux matchs, pas voir les matchs contre Limassol, contre
Konyaspor
et tout. Les matchs en Sibérie là-bas, il fait 30 degrés. Et après, au niveau de la clause, c'est vrai, là, pour vous dire les chiffres, c'est Garcia, le licenciement de Garcia, c'est 9 millions d'euros. Plus son staff, c'est 6 millions d'euros. Ouais. Donc le licenciement de Garcia coûterait 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille.
Merci à base pour ce...
Il regarde pas la télé, il a pas vu le PSG qui avait gagné contre Manchester City et que Nasser, son homologue, le président de Paris, avait prolongé Laurent Blanc. Et derrière, quand il a perdu au match retour, Paris a perdu 21 millions d'euros. Donc je sais pas, moi, on dirait qu'il regarde pas la télé. Donc après, moi, ce que j'ai lu ce matin aussi sur la Provence, c'est que Héros aimait bien Laurent Blanc et Laurent Blanc, l'an prochain, aimerait entraîner un top club.
C'est vrai qu'il a démenti à Téléfoot,
À Téléfoot.
Il va pas l'affirmer aussi.
Il a démenti à Téléfoot, mais par contre, moi, ce que je verrais bien à l'OM, j'ai bien vu le travail. Il faut un formateur. J'ai bien vu le travail qu'a fait Bielsa, parce que tout le monde oublie, mais les Maxime Lopez et tout le reste, les Sparagna, Andonian.
Il y a la prochaine chronique, là, tu nous mets bien en train.
Il faut un formateur comme
là.
Lucien Fabre ou Claude Puel à l'OM. Parce que si vous oubliez, regardez bien, Garcia, première année à la Roma, c'était nickel. Deuxième année à la Roma, il commence à s'effriter avec le public.
Fait de paille, hein.
Et la troisième année, ils l'ont fait sauter.
Donc là, Abbas vient de nous chauffer les chroniques suivantes. Donc là, avant de passer à Mitroglou ou Fantomas, je dis bien Mitroglou ou Fantomas, on a largement abordé ce sujet. Donc là, on va laisser une petite pause avec notre ami Bram Cito. Donc soyez attentifs. On va aborder ce sujet pimenté. Mitroglou ou Fantomas après Bram Cito. Salmoud. With protection.
Te demande pas à qui je suis affilié. Mon train de vie ici bas n'est pas assuré. Tes fleuves de larmes couleront à la mer. Tout est si beau, les roses poussent dans la merde. Lueur d'espoir m'éclaire mais je suis mal luné. Ce cœur de pierre finira par tout ruiner. Amour et guerre souvent ne font pas la paire. Mes ennemis sur la place veulent me lapider. J'suis en lunettes quartier,
posé dans le quartier.
T'attends que je te rappelle.
Ce soir non, j'vais pas rentrer.
J'dois surveiller le cartel.
Y'a plus rien dans le sachet. Des grosses têtes vont se fâcher.
Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. T'étais ma bad girl.
C'est ton problème, ce n'est pas le mien. J'suis gaz sur l'échange, claque 20 000 chez Balmain. J'ai signé pour le Nikta, j'ai rempli le bon. Non, c'est pas le ton, négro ne fait pas le con. On s'est croisé à Hollywood, personne n'a pris l'avion. Moi, dans ton réseau des gars, j'ai bien retenu la leçon. J'ai vu l'ennemi en béron, hallucination. Faut à tout prix que j'me retire sa période d'ovulation.
J'suis en lunettes quartier,
posé dans le quartier.
T'attends que j'te rappelle.
Ce soir non, j'vais pas rentrer.
J'dois surveiller le cartel.
Y'a plus rien dans le sachet. Les grosses têtes vont se fâcher.
Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. T'étais ma bad girl. Je fais le vide, désolé. Que le mépris pour m'épauler. Plus aucune envie désormais. Si je pars en vrille, désolé. Je fais le vide, désolé. Que le mépris pour m'épauler. Plus aucune envie désormais. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl. Car j'ai un sale mood. T'étais ma bad girl. T'étais ma bad girl. Et ouais, ma bad girl. Mais j'ai un sale mood.
Nous revoilà sur Te Casse l'émission. Voilà, on est chaud. Voilà, on est vraiment bouillant. On va aborder le sujet suivant. Donc, Mitroglou ou Fantomas. Fantomas. Alors, donc, pourquoi ce sujet-là? Alors, quand même, j'ai été sidéré. Car, comme l'a expliqué, ben, entre autres, Abbas sur la situation de Mitroglou, je pense qu'il ne fallait pas être. On va dire expert en vision pour voir qu'il était déjà blessé. Tu fais venir un joueur en civière, je ne sais même pas comment il a passé les tests, hein. Il était déjà blessé, aucune préparation physique, il avait au moins 15 plaquettes de beurre parquées au niveau de l'estomac, il n'arrivait pas à se lever correctement. Honnêtement, je trouve, hein, que là on a frisé le ridicule. Je ne le critique pas en tant que tel, mais je pense que en tant que professionnel, le préparateur physique, etc., ou c'était un contrat, où Garcia avait 15% de la somme. Mais au fait, malgré qu'il soit parti à Galatasaray, et ce qu'a expliqué Abbas, que voilà, au bout de 4 heures, le public avait envie de le transformer en brochette kebab, je ne comprends toujours pas ce choix. Donc là, je vous pose la question, à votre avis, donc Julien, pourquoi Mitroglou? Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de m'acharner sur lui.
L'urgence, c'est Si on se remet dans les conditions, c'est à la fin du mercato, ils ont trouvé personne, Deguin qui est venu, personne ne voulait venir. Et ils ont pris le premier mec qui avait mis plus de 10 buts dans la saison dans un championnat européen. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, ça aurait pu être un pari gagnant, mais je pense que...
Ah non, la première fois que je vais te couper, Julien. Enlève-moi cette dernière, je vais couper au montage. Ça aurait pu être un pari gagnant, je peux pas, Julien. Là, je saigne.
On ne sait pas.
Ah, moi, je savais. Non.
Quand on le connaît pas...
Ses stats, c'est vrai qu'il avait des belles stats. Il faut mettre les choses avec Benfica.
Je ne veux pas m'acharner sur toi.
Tu vois un mec arriver de Benfica qui a fait une bonne saison à Benfica. Benfica qui joue... l'Europa League, bien classé dans le championnat portugais, même si ce n'est pas forcément une référence. Tu peux te dire, bon, pourquoi pas, on a eu des gains, je ne sais plus qui on avait, il y avait Gomis qui venait de partir. On avait acheté Germain. Bon, après, on pensait que Germain, c'était un phénomène aussi tout seul, après qu'il ait plaqué...
Germain ne le critique pas, c'est mon chouchou.
Non, il n'y a pas de critique. Mais
pour moi, ce n'est pas du gaspillage.
Mais dans les conditions où Garcia l'a mis pour jouer... c'était pas son poste et on pensait qu'avec Mitroglou ça allait peut-être pouvoir fonctionner. Après
ce que je retiens c'est peut-être pouvoir.
C'est ça, mais il y avait beaucoup d'incertitudes. C'était juste de l'espoir, comme on dit, voilà, l'espoir fait vivre.
Là ils ont fait crever.
Mais au final on était plus morts que vivants à la fin. C'était difficile.
Bon Coco, on va voir ce que tu vas nous sortir parce que Julien m'a surpris quand même.
Ben écoute, je vais te surprendre peut-être aussi, mais je suis assez d'accord avec lui. Il faut se remettre.
Tu m'as déjà surpris.
Allez, merci, au revoir. Ouais, pas de soucis. Non, il faut se remettre dans le contexte dans lequel il est arrivé. C'est le premier mercato estival, je crois, de l'ère McCourt Hero. Et tous les supporters de l'OM attendaient le mercato estival pour qu'on recrute le fameux grand attaquant. Et on n'a rien vu venir. Et on est arrivé au 31 août et on n'avait personne, Deguin, comme on dit à Marseille. Personne. Et on est allé nous chercher Costas. Donc certes, comme le disait Julien, qui était dans une belle équipe d'Europe, hein, Benfica, c'est pas une équipe dégueulasse. Hein. Et on nous a dit, voilà, il a telle stat. Et c'est vrai que sur le papier, c'était quand même alléchant. Moi, personnellement, je me disais pas que c'était Papin, mais bon, voilà, il avait ses stats, quoi. Mais après, je pense que au-delà de ça, il faut se poser la question sur comment il fait le recrutement à l'OM depuis des années. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Parce que honnêtement, il y a des zones d'ombre. Je sais pas qui prend les décisions. On me dit chaque année que la cellule de recrutement de l'OM est très performante, ce dont je ne doute pas. Hein, avec
oula, ne me grille pas les chroniques à venir. Tu chauffes la braise, comme à Basse.
Mais voilà, je pense qu'il y a autre chose que le football peut-être qui rentre en compte. Je sais pas. Et d'ailleurs, ouais, j'en profite
autre
pour
chose,
faire un
petit... Autre chose, il a ouvert un snack kebab, il a ouvert autre chose.
J'en profite pour faire un petit peu de publicité au livre de Mathieu Grégoire, Les Parrains du Football, qui est un très très bon livre et où on comprend beaucoup de choses sur les agents de joueurs et certains transferts qui se font dans l'Hexagone.
Gardons sur la pédale parce que c'est intéressant. Toi, Abbas, qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je suis pas d'accord avec Coco et Julien.
Ah merci, voilà, je respire.
Parce qu'en fait, vous le savez bien, hein, personne ne le cache, il y a une guéguerre entre Garcia et Zubizarreta. Sachant que Zubizarreta avait proposé Carlos Bacca du Milan AC pour 10 millions d'euros. Ouais. Et Garcia a dit non, je ne veux pas ce joueur parce que ce joueur ne fait pas partie du profil du joueur que je recherche. Et après, vous oubliez un joueur qui brille, qui s'appelle Nicolas Pepe de Lille, que Zubizarreta a proposé à Garcia pour 10 millions d'euros. Donc du coup, l'OM n'a pas voulu payer son salaire exorbitant. Donc du coup, malheureusement, comme il a vu que le projet n'était pas sérieux, il est parti à Lille. Et après, vous oubliez aussi, Gomis, il a baissé son salaire. Je crois qu'il gagnait à l'OM 250 000 euros. Et lui, il voulait reprendre son salaire à 450 000 euros. Et Garcia a dit non. Donc du coup, il est parti comme ça à Galatasaray. Et moi, je lui en veux pour ça parce que Gomis, c'était un attaquant à 20 buts, qui connaissait bien le club. En plus, c'était un bon complément à Valère Germain. On mettait Gomis devant, d'accord. Et comme à l'époque, on avait Brandao. Et là, c'était vraiment le profit pour Germain. Là, on était costaud. Donc c'est pour ça, moi, je suis. J'en veux pas à Mitroglou, moi. J'en veux à Garcia, moi.
Je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où tu fais partir, comme tu dis, Gomis. Oui. Et les gens, ils demandaient la tête de Hero et de Garcia s'il n'y avait pas d'attaquant. Donc, ils ont dû faire d'un... Après, c'est leur faute, hein, ça, je suis totalement d'accord.
Après, pour reprendre aussi, sachant que le joueur était blessé et qu'il y a une clause de 50%, c'est-à-dire que Mitroglou, si l'OM le revend 10 000, il y a 5 millions pour Benfica. Il le revend 1 million d'euros, 500 000 pour Benfica. Donc là, ça fait couillonner.
C'est le coup du siècle.
Ah ouais, là, c'est le coup du siècle pour Benfica. Si l'OM le revend 5 millions, il y a la moitié à Benfica.
Mais ça me fait penser à Lucho González aussi.
Et tu as vu qu'il brille, Lucho, là. Il est dans un club
en Argentine.
En Argentine. Et
ouais,
il brille,
c'est ça. Son ancien club.
Et il brille. Non, mais c'est vrai. Je rejoins ce que disait Abba. C'est vrai que effectivement, vous l'aurez constaté. Hein, je suis totalement en désaccord total. Donc totalement en désaccord total avec vos arguments. Parce qu'effectivement, je pense qu'à l'OM, on a trop fait ça. On a trop fait partir des attaquants prolifiques. Moi, je retiendrai effectivement Gomis parce qu'il était en pleine bourre. Il nous stabilisait l'attaque. Voilà, on arrivait finalement à trouver une régularité au sein du club. Et il arrive et il fait sauter Gomis. Donc je pense que, on va dire que par rapport à ce qu'a fait Bielsa à Lille, parce qu'effectivement on a reproché à Bielsa de virer les cadres pour, on va dire, instaurer son autorité. Bon, Bielsa, on a vu un peu l'issue que ça a eu par rapport à ça malheureusement. Mais on va dire qu'il y avait une petite raison parce que effectivement, comment il s'appelle déjà le capitaine de Lille qui a été viré, j'ai oublié son nom,
Mavouba.
Il était en, on va dire, en perte de rythme. Donc il y avait une petite légitimité alors que Gomis, quand même,
il était à 20 buts.
Ouais. Il n'y avait aucune raison finalement.
Oui, la première erreur c'était ça. Ouais.
Voilà, donc ouais. Moi c'est pour cela. Bon, c'est vrai qu'à base là, il m'a permis de nuancer un peu ma colère. De moins en vouloir à Mitroglou.
Ah ouais. Demain, on te donne 320 000 euros, tu viens courant. Blessé, tu vas.
C'est pas sa faute, bien sûr.
Et par rapport à ce que dit Abbas, on va écouter une interview donc, de Garcia, justement, pour le donner, on va dire, une faute exclusive. Par rapport au match OM donc Dijon. Donc pourquoi? Parce que nous allons arriver au plat, au débrief du match OM Dijon. Donc on va écouter son débrief à Garcia et on va y revenir pour que vous puissiez me donner votre avis.
Oui, c'est exactement ça. C'est pas le plus beau match de mon équipe depuis que je suis à l'Olympique de Marseille, mais dans le contexte actuel, c'est une victoire précieuse. De toute façon, elle était impérative, donc on l'a obtenue. On aurait pu marquer avant, en première période, sur notre temps fort. On a eu un temps fort à un moment. Et puis finalement, ce sont les coups de pied arrêtés, qui sont quand même un élément important dans le football actuel, qui nous ont permis de gagner. Voilà. D'abord, je ne sais pas si c'est... moi, je dirais Adil Rami sur le premier. Et ensuite, je n'ai pas vu les images, donc j'en sais rien. Et puis de nouveau Adil sur le coup franc excentré, et qui nous ont permis de gagner. On a souffert de quelques frappes dijonnaises en première période. Donc il a fallu corriger ça et le fait de sortir un petit peu plus sur les tireurs. C'est une équipe qui tire beaucoup au but, et notamment à l'extérieur. En deuxième période, on a été un peu plus tranquille, en tous les cas au nombre d'occasions dijonnaises. Après, on a été assez moyen dans la production de jeu, surtout en deuxième période. Bah, quand on est professionnel, on a envie de gagner, on a retrouvé notre jardin et home sweet home, comme on dit. Voilà.
Nous revoilà donc suite à cette conférence. Donc là, problème technique, il y a eu une erreur donc au niveau du site. Il y a bien eu 2-1. On aurait bien aimé le 2-0 par rapport à ce match. Donc le débrief du match OM Dijon tout de suite. Alors. Donc, pour vous, les amis, le match OM-Dijon, victorieux.
Dijon-OM.
OM-Dijon. Qu'en pensez-vous?
Alors, je trouve... bon, déjà, comme on a pu le voir, il y a eu vraiment demi-temps. Même si je pense que sur la première, on rentre en perdant. C'est pas forcément mérité parce qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. On n'a pas forcément dominé, mais ils nous ont pas forcément dominé non plus. C'était c'était un match de merde. Voilà, voilà la première mi-temps,
ouais, c'est clair.
C'était ça. Après, voilà, sur la deuxième mi-temps, on a vu que Garcia, pour une fois, il a réussi à rectifier le tir. Il a un peu mis son ego de côté. Il a mis, il a fait rentrer Germain pour enfin dynamiter tout ça. Après, ce que je regrette, même si la deuxième mi-temps est bonne, qu'on voit que Germain Balotelli, c'est complémentaire, c'est le fait qu'il ait fait commencer Thauvin sur le devant associé à Balotelli. Parce que je trouve que surtout avec le retour de Sakai, c'est vraiment notre point fort, je pense.
Sakai, qu'est-ce qu'il m'a manqué ce joueur
Au niveau... C'est vraiment quelque chose qui nous manque et je regrette qu'on n'arrive pas à trouver ça sur le côté gauche. Et je trouve que c'est, à part le débat du grand attaquant qu'il y a pu avoir avant l'arrivée de Balotelli, etc., c'est vraiment le problème de l'aile gauche aussi. Parce que quand on voit Amavi qui...
Il met plus un pied dans l'autre.
Qui est sur courant alternatif, on va dire.
Et moi, Amavi, je l'aime beaucoup ce joueur.
Et au Campos aussi. Mais bon, après, Amavi, le problème, c'est que il est bon au milieu du terrain. Quand il arrive trop près de la défense, il commence à faire des bêtises. Et quand il est devant, les centres, c'est pas ça non plus. Après, j'aime bien à ma vie sur sa façon de déborder. Il peut être assez technique aussi. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais plutôt voir Radonjić devant lui pour vraiment essayer de trouver une autre paire à gauche pour essayer vraiment de... Parce que là, à force, c'est soit côté droit, soit devant. Donc là, quand on joue contre Dijon, contre Bordeaux, le Bordeaux qu'on a joué, ça passe. Mais après, on va jouer contre des concurrents plus sérieux. Et j'ai peur qu'en jouant sur Thauvin 80% du match et le reste sur Balotelli devant, j'ai peur que ça coince.
Ok, très intéressant. Coco, ton débrief.
Ouais, je pense que Julien a dit le mot, ça passe pour le moment. Merci. Contre des équipes qui sont plus faibles. Enfin, honnêtement, je ne sais pas si en produisant le jeu qu'on a produit, même contre Dijon, on va pouvoir aller très loin. Mais bon, on a été solide, comme le rappelait Julien. Je pense que également que le tournant du match, ça a été de faire rentrer Germain, le coaching de Garcia. Et la complémentarité qu'il y avait avec Balotelli. Et je pense aussi que la charnière centrale, elle a été très très solide contre Dijon. Et la défense, c'était vraiment le chantier depuis le début de saison. Et là, quand on s'aperçoit que quand on met les jeunes, donc je sais qu'on avait fait un article sur Footage de Gaulle, et quand on met les jeunes, de suite, on a mis Bouba Kamara et Khaled Takar, et les deux ont fait leur match, vraiment un gros match. On leur fait confiance et ils le rentrent sur le terrain.
Ok, pas plus parce qu'il ne faut pas nous griller la suite. Donc, là, j'ai nos auditeurs qui sont bouillonnés. Là. Ils veulent savoir ce qu'on veut proposer. Toi, Abbas, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je suis d'accord avec Julien et Coco. Mais par contre, voilà, il aurait dû garder la même dynamique que contre Bordeaux et mettre d'entrée Germain. Voilà, c'est la seule erreur qu'il a fait sur ce match, c'est ça. Après, là, je vois que l'équipe elle est en confiance parce que d'habitude, on aurait pris ce but, et on aurait perdu le match. Et là, on commence à avoir la mentalité qu'on avait l'année dernière.
Des capacités mentales.
Voilà, capacités mentales. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'on perd Strootman sur blessure. Et comme disaient Coco et Julien, c'est vrai qu'à gauche, dommage qu'on n'a pas... Je veux dire que Garcia n'essaye pas d'autres joueurs du centre de formation parce que franchement, à ma vie...
On y vient les amis, on y vient.
Tu vois, purée,
là j'ai une transition.
Pourquoi ils ont prêté Rokia? Je comprends pas ça.
On va y venir très rapidement parce que ça va être pour moi le boulet de canon de Footage de Gaulle, donc effectivement la formation. Alors moi, mon débrief est le suivant. Il est vrai que depuis un moment, Garcia, je pense, est passé, on va dire, sous les balles. Mais ce match est à l'image un peu de l'Olympique de Marseille, je dirais même depuis plusieurs années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on bat beaucoup de records, ne serait-ce qu'envers Bordeaux ou le PSG, on n'en parle même pas. Donc je pense que le problème Garcia, c'est une malheureuse suite logique de la décadence de notre cher club. On se moque de nous maintenant, en fait, de ressasser le 93 absolu, l'étoile. Mais je pense que voilà, on est vraiment dans une mauvaise dynamique. Mais Balotelli amène une sorte de lumière, une lumière qui nous manquait, une grinta. Il amène du peps lorsqu'il a marqué son but. Effectivement, je l'ai senti un peu esselé, mais il a vite compris. Je pense que, comme l'a très bien dit Abbas en début de chronique, c'est un fada. Et un fada dans un dispositif de fada, sans organisation, sans rien, il se retrouve comme un poisson dans l'eau. Donc la moindre brèche, il sait qu'il faut l'exploiter parce qu'il ne sait pas s'il aura un autre ballon à côté. Effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Tu parlais d'Amavi, effectivement, donc il y a un manque par rapport au ballon. Il y a Thauvin qui commence un peu à fléchir. Il n'arrive plus à distribuer autant de ballons qu'avant. Sakai, bon, il nous manque énormément parce que c'était un peu le ratisseur, on va dire le cantonnier de l'équipe. Hein. Il fait le sale boulot et en même temps, il nous fait du propre quand même. Donc je pense que voilà, on est dans une dynamique descendante malheureusement. Et après le son donc, que va nous passer notre ami, on va aborder longuement le son de formation parce que j'ai envie qu'on prenne beaucoup de temps donc, sur le son de formation. Préparez-vous car là, on va vous donner, j'espère, la solution. La solution pour que notre cher club monte en puissance, monte en force, retrouve un visage décent. Tu peux y aller mon ami parce que là j'ai la rage. C'est un son qui va un peu refléter cette rage qu'il y a en moi. Tu peux y aller.
Vous êtes sur Banlieusard FM. Président d'une radio plus grossière que courtoise, Henri de Lesquin souhaite devenir le prochain président des Français. Dans sa parodie de programme, il propose de bannir la musique nègre des médias soutenus ou autorisés par l'État. Et évidemment, pour lui, le rap, cette musique immonde, c'est de la musique nègre. Michel Audiard écrivait « Les cons, ça ose tout » et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ces propos n'ont pas laissé indifférent le monde du rap. Musique nègre, c'est donc le titre de la nouvelle chanson du rappeur Kery James, l'auteur du très dérangeant mais fédérateur Racaille. Accompagné du Prims Parolier et de Lino, Kery James répond à Henri de Lesquin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le poète noir ne tire pas à blanc.
Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle ça un nègre. Un noir qui plane au-dessus de, j'appelle ça un aigle. J'ai fait un cauchemar, Martin Luther un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leeb. Les grosses lèvres, les plus célèbres. Je me sens beau, noir, je m'élève jusqu'au high level.
High level. La foule enlève, la merde, la fout entre Chaka Zulu et Dwayne Vieira Slave. Mon art, c'est la sève. Garde yes weekend. Si tu me réduis à la danse, au Kentucky Fried Chicken. Négro, je dérange, mais le nez du sphinx explosé. Comme Huey P. Newton, calibré sur un trône en osier.
J'suis aussi choqué, leur quota brise les quotas de la France profonde. Ricard comme Joker sur Gotham, comme un gros tag sur la Joconde. J'raconte que les Antilles sont pillées par la métropole. Que mon Africa est bien trop forte et que
l'Africa est souvent négrophobe.
Forte est ma musique, imagine, offre les codes Illuminati.
Ici pas de négro fragile, rouge, jaune, vert, kaki.
Le cul posé, j'ai pris votre place, je me prends pour Rosa Parks.
Je me prends pour tout, sans l'ouverture, bouton cul de Bonaparte.
Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez Yes Weekend.
On fait de la musique nègre.
J'suis revenu choquer leur quota. Choquer leur quota.
Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez Yes Weekend.
Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Guerlain, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle insolence. Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance. Je me sens pas plus européen que la livre sterling. Je fais mon nègre site au sol comme Alton Sterling. A trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé. J'pourrais mourir d'infection comme un Traoré. Des négrophobes comme Alain Soral dans un texto. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Les histoires deviennent des...
Les histoires viennent des légendes, les légendes deviennent des mythes. J'roule des bâtons dans les jambes, noir qu'émite, sale noire faucheuse.
J'dépasse mes limites,
j'emprunte les voies rocheuses.
J'brûle comme le soleil à son zénith.
Accrocheuse, massique, al majeur levé, regarde à quoi on me cantonne.
Le vrai du faux se démêle, sombre attitude comme ces nègres sortis de Compton. Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes, mec, si je mens, l'enfer m'attend. Je rallume le feu de la révolte, je brûle les bouquins de Fernand Nathan. Guéri m'a dit bourse, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés. Je rappe ma vérité nue, genre crazy horse, cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé par la street, j'avance entre les croix gammées.
Les croix cramées.
À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal. D'en bas, c'est nous la France, négro, comme Alexandre Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas le son
du tam-tam.
Musique nègre égorge le rossignol, nos gueules en prime time. Musique nègre, pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez yes weekend.
On fait de la musique nègre.
J'suis revenu choquer leur quota. Choquer leur quota.
Musique nègre,
pas calibré pour la FM.
On fait de la musique nègre.
Quelle insolence.
Musique nègre.
Gardez yes weekend.
On fait de la musique nègre.
Nous revoilà les amis, Te Casse l'émission 88.4. Là nous abordons gentiment le foutage de goal, émission 100% foot. Donc là nous passons donc à un sujet sulfureux, un sujet que j'estime peu abordé donc, dans la sphère football. Il s'agit de la formation, essentiellement centrée sur la formation de l'Olympique de Marseille. Donc là je vais essayer d'introduire un peu le sujet. Alors pour moi, donc, la formation à Marseille est catastrophique. Pas la formation, l'utilisation des jeunes issus de la formation est catastrophique. Effectivement, on a eu donc, quelques jeunes, les rares jeunes qui ont été utilisés par l'Olympique de Marseille ont montré, on va dire, de par leur talent, qu'ils étaient utiles, notamment avec la victoire contre Dijon, avec le but du petit Camara. Hein. Et notamment Maxime Lopez qui a été mis, qui a été placardé à Jiffy et qui a fait un retour tonitruant lorsqu'on lui a fait enfin confiance. Donc pour moi, le problème de l'OM n'est ni l'entraîneur, ni héros, ni ce que vous voulez, c'est qu'on n'a toujours pas compris, à l'image donc, d'Olas, qu'il fallait intégrer le centre de formation. Pour un club comme l'OM, on va dire, pour avoir quand même un potentiel sans précédent. Je pense que le sujet est là. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien ?
Alors, là, c'est vrai qu'on aborde le sujet au bon moment, avec, comme tu l'as dit, l'explosion de Maxime Lopez depuis le retour de la trêve. Je pense que c'est lui. Tout à l'heure, on parlait de Gustavo, Sweetman, etc. Mais je pense que en ce moment, s'il y a un joueur à retenir au milieu de terrain, je pense que c'est bien Maxime Lopez. Après, on a vu avec Camara aussi, voilà, qui commence à montrer le bout de son nez.
En tant que défenseur, moi j'ai dit Camara, c'est mon petit.
Eh oui, c'est un bon profil qu'on n'a pas parmi les lents et lourds Adil Rami et Rolando. Donc après, c'est vrai que le problème, c'est l'utilisation des joueurs, même. Même voilà, comme quand on voit que Jordan Amavi est en difficulté, etc. Qu'on prête Rocky à Sochaux.
Toi, il t'a choqué Amavi. Hein.
Ah ouais, non, Amavi.
Il,
oui.
Il t'a mal fait dormir.
Ah
hein.
Ouais, ouais,
il t'a mis en transe.
C'est parce que c'est mon poste alors.
J'ai tiré les verres du nez, Julien. Je t'ai tiré les verres du nez parce voilà, que là, Amavi, il en a eu pour son grade.
Ouais,
hein.
Non, non, voilà, mais Amavi souffre du contraste avec Sakai de l'autre côté. Comme Sakai, c'est un peu mon.
Sakai, il n'a pas le temps. Il sort de là, il va dans son restaurant sushi bar. Hein.
Ouais,
il n'a pas le temps, lui.
Et après, c'est vrai que je regrette le fait qu'on ne les fasse pas jouer. Voilà. J'ai l'impression que les jeunes à l'OM n'ont pas leur chance. Après, ils se retrouvent envoyés dans des clubs de Ligue 2, dans des clubs à l'étranger, pas forcément très bien cotés. Et au final, ça les dessert et tu passes d'une pépite, tu la tailles petit à petit et à la fin, il te reste un bout de caillou, il te reste juste le petit noyau qu'il y avait à la base, mais tu peux plus rien en faire. C'est là que.
Pas mal, j'aimais ta description, Coco. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu ?
Bah écoute, c'était très intéressant vos analyses. Je pense que pour aller un peu plus loin, je pense que c'est clairement pas dans l'ADN de l'OM la formation. Et ce, depuis. Ça a jamais été dans l'ADN de l'OM en fait. Comme tu le rappelais tout à l'heure, 93, Tapi président, on gagne avec des, on avait des stars quoi dans l'équipe, c'était un recrutement de stars. Et je pense que quand Dreyfus a repris le club, il a voulu rester dans cette politique un peu de stars en fait, hein. Il faisait des gros transferts, etc. Et en fait, on s'est pas rendu compte que qu'on laissait le centre de formation vraiment de côté. Et je vous rappelle les épisodes ben, Mehdi Benatia, le défenseur de la Juve en ce
d'ailleurs,
moment.
Il s'en rappelle toujours, hein. Il ouais. a la haine contre ouais. l'OM par rapport à ça. Hein.
Et combien de jeunes on a laissé partir, combien de pépites.
On va
pas répéter
le Canasri également. Hein.
Ouais, Nasri, ouais, mais Nasri, tu l'as fait signer pro et tu l'as vendu quand même bien à Arsenal.
Ouais, mais bon, il voulait rester, attention, hein. Il voulait rester à l'OM. Hein.
Ouais.
Il a encore répété il n'y a pas très longtemps. Donc,
Ouais, mais voilà, Mehdi Benatia, Ahmed Yayaoui, vraiment des pépites qu'on avait au centre de formation et qu'on n'a pas su amener, comme tu disais, soit prêter dans les bons clubs. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prêtes un joueur, il faut aussi. Enfin, faire un minimum de travail avec le club auquel tu vas le prêter quoi. Parce que si tu le prêtes à Petaouchnok, je sais pas où là, que le coach n'en veut pas
tu l'as dit hein, je pense que c'est une culture qui nous manque hein.
Exactement, je pense que c'est clairement pas dans l'ADN de l'OM et toi, j'espère
que ça va. Qu'est-ce que tu en penses?
Je vais vous faire un peu d'histoire. En fait, dans les années 80, l'OM se servait du centre formation avec les minots, avec Michel Floss, avec José Anigo. Ils sont remontés en Ligue 1 et en fait voilà, il n'y a que Marseille qui est comme ça en fait. En fait, le centre de formation à l'époque était géré par Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin
a
lâché en fait Jean-Pierre Foucault, le président, et Robert Nazarethian sous l'égide de l'OM Association en 1996. En 1996, c'est Jean-Pierre Foucault qui était son président, Robert Nazarethian qui a géré le centre de formation. Et le problème en fait de l'Olympique de Marseille en fait, c'est le budget de je vous prends un exemple, le budget de Auxerre, qui est un club en Ligue 2, c'est 5 millions d'euros. Le budget du centre de formation, c'est-à-dire de l'école de football de U6 jusqu'à CFA, est de 6 millions d'euros. C'est-à-dire l'OM a des moyens. Après, on prend un deuxième exemple. Bon, le club qui est le plus riche, c'est Lyon, qui est 15 millions d'euros, le centre de formation de Lyon. Donc quand même, l'OM, on est bien lotis. On a un budget équivalent à Auxerre, quand même. Auxerre, vous avez vu, c'est un club historique. C'est un club historique et tout. Et en fait, le problème, pour rejoindre Coco, Mehdi Benatia, en fait, le problème de Mehdi Benatia, en fait, c'est que c'est que l'OM, comme tu dis, on ne voyait pas encore, l'OM n'a pas de vision sur le long terme. Un centre de formation, au bout d'un moment, on doit prendre un jeune. Et derrière, on doit dire ce jeune, dans 10 ans, il va devenir quelqu'un. Nasri, l'histoire de Nasri, c'est que Nasri, en fait, quand il a été champion de France avec Benzema et comment ça s'appelle déjà, Benzema, Ben Arfa.
Ah, champion du monde.
Champion d'Europe, ouais, pardon, champion de moins de 17. En fait, l'OM l'ont blindé. Et c'est après ça qu'il s'est entraîné avec les professionnels.
Oui, puis c'était un phénomène.
Et
enfin,
qu'il a brillé.
Pas faire autrement aussi.
Non, et pour rebondir, Coco, Bédi, comment ça s'appelle déjà, Yayaoui s'est viré tout seul.
Oui, aussi, il avait des problèmes de comportement.
Il avait des problèmes de comportement, en fait.
Mais c'était une pépite.
Il s'est viré tout seul. Par contre, quand on prend Keita à l'époque, qui a été champion, qui a gagné la Ligue des Champions, l'Europa League avec le Barça et Séville. Voilà, ça c'était une pépite.
Vrai, Keita,
mais c'est vrai, après quand tu regardes en fait le classement de tous les joueurs qu'on a, c'est en fait l'OM, à part Nasri, à part Keita, mais bon, qui est formé au club, parce que quand même Keita c'est un joueur qui il a, et on oublie Flamini à l'époque.
Ah oui,
l'erreur de Flamini.
Flamini,
que Flamini, il a été formé à Arsenal, il n'a pas été formé à l'OM, parce que son premier contrat professionnel, il a signé à Arsenal.
C'est vrai.
Que Annie, vous la savez l'histoire en fait, c'est que Flamini en fait, c'est son oncle ou son oncle qui est avocat, il voulait 65 000 euros. L'OM, ils ont dit on te donne pas cette somme, et en fait il était à l'Arsenal, ils lui ont donné 75, donc c'était pas une question d'argent, il voulait rester là et voilà. Et en fait le problème de l'OM concernant la formation en fait, c'est que on n'a pas les meilleurs joueurs. En fait, les joueurs maintenant, ils préfèrent aller ailleurs qu'à l'OM.
Ils veulent plus venir.
Ils veulent plus venir à l'OM.
Du coup, c'est malheureusement, c'est la malheureuse conséquence. Donc,
c'est
coup,
ça.
La transition est parfaite, puisque là, on va aborder le dessert. Hein. Accrochez-vous, une cuillère, une petite ou une grosse cuillère pour les plus gourmands. Donc là, on va attaquer la perspective. Effectivement, l'OM retrouvera-t-il les sommets? Donc, bien sûr, il s'agit là de la Ligue 1. Nous sommes cinquième, cela fait quand même. Abbas a très bien rappelé la finale.
Est-ce que Zizou, je peux rajouter quelque chose?
Bien sûr, vas-y.
Le classement, bon, pour vous, pour, pour vous dire le classement comme il est triste. L'OM, en fait, est 17e classement des centres de formation. Donc, je vais vous donner le palmarès.
Ah ouais, c'est intéressant, ça.
Du centre de formation. Donc, le premier, vous le savez, j'ai pas besoin de le dire.
Ah, c'est Lyon.
C'est Lyon. Deuxième, je vais vous donner les 5 premiers. Deuxième, vous le savez, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais. Troisième, c'est Monaco. Et cinquième, c'est Rennes. Et oh. Nous, on se retrouve 17e. Et le 16e, vous savez qui c'est ? C'est Nîmes. Sachant que Nîmes, il n'y a que 2 salariés en CDI dans le club. Vous imaginez que le club... Non, mais je parle du club en Ligue 1. En Ligue 1. En Ligue 1, c'est-à-dire le club qui est en Ligue 1, ils n'ont que 2 salariés en CDI. Et tout le reste, c'est du bénévolat.
Sur, ils sont combien en
sur, 20 sur 20. Sur 20. Sur 20. Oh. Le dernier, c'est Lille, parce que Lille, ils font du trading. Et voilà.
Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, parce que tu disais quand même qu'ils avaient un budget de 6 millions d'euros, c'est ça ?
C'est ça.
Donc un budget qui n'était pas dégueulasse quoi, qui avait c'était quand même
énorme. Quand je te dis qu'Auxerre c'est 5 millions d'euros.
Et donc mais c'est quand même incroyable ce que tu dis, parce que du coup cet argent qu'est-ce qui est fait avec ?
Eh ben là je vous donne la situation hein. Là la situation c'est l'article de la Provence en fait. C'est en fait les 19 nationaux ils sont avant-derniers. La CFA qui est quand même la CFA les 19 nationaux en fait c'est comment ça s'appelle déjà ? C'est les porte-drapeaux d'un centre de formation. Donc la CFA est dernière. Et les 19 nationaux sont derrière.
Et d'ailleurs, l'entraîneur des 19 nationaux a été limogé.
Non, il est parti de lui-même. Il est parti de lui-même et là, c'est chaud. Là.
Mais là, franchement, Abbas, merci pour cette information parce que honnêtement, je ne l'ai jamais entendu ni à RMC, ni dans aucune antenne. Donc, non, mais effectivement, parce que ce sujet-là n'est jamais abordé.
Et ça, ce chiffre, c'est un article du Monde.
Hein. Voilà, oh, et du Monde, ouais, c'est significatif, ouais. Hein, ça prouve bien que. 17e sur 20, donc là, ça prouve que ça... Bah, on va dire que cette analyse à base nous donne raison hein, sur le centre de formation. Maintenant, pour revenir un peu à cette thématique, ce que tu as dit, c'est en plein dedans. Hein. Donc, l'OM retrouvera-t-il les sommets ? Donc, en l'occurrence, à travers cette thématique, il y a donc la Ligue 1 et l'OM. Donc, notre rapport par rapport au Big Three, on va dire. Hein. Donc, Monaco, Paris Saint-Germain et Lyon, hein, pour ainsi dire, même si... On va dire que la cadence s'inverse un peu parce que Monaco est dans une zone, on va dire, assez raide comme mon micro. Mais Jardim, le portugais, le bâtisseur, je pense qu'il va remédier à ça. Et aussi le fameux PSGOM. Donc là, on va aborder ces 3 sujets, hein, on va dire, avant de pas finir. Mais on a un qui suis-je, un jeu qui nous attend. Donc pour moi, on ne retrouvera certainement pas les sommets. On va dire avant que ce sujet-là soit pris au sérieux par l'Olympique de Marseille. Je pense que Monaco, pour citer qu'eux, ont pris conscience finalement parce que vous savez ce qui a fait prendre conscience à Rebolon 9, le russe, c'est son divorce. Et il s'est dit, je n'ai plus d'argent, je vais compter sur son formation. Et donc à partir de là, il a pris donc, le bâtisseur parce qu'à partir de là, il a dit, faut me rentrer du cash. Il a vidé donc quasiment le centre, entre autres avec le big cash de Mbappé. Mbappé qui leur a fait rentrer, on l'oublie, hein, c'est le budget de l'OM. Hein. Ah oui, avec Mbappé, quasiment, ils ont frôlé le budget de l'OM, il ne faut pas l'oublier. Donc, effectivement, ils ont très bien compris. Et que moi, je pense qu'on ne retrouvera pas les sommets et surtout pas une victoire contre le PSG. Après, on va dire que ça peut me donner, l'avenir peut me donner tort. Que si l'OM ne prend pas conscience que le centre de formation, on va dire, est un fait essentiel pour le long terme. Donc voilà, moi, mon avis se centre sur ces arguments-là. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Ça dépend dans quelle perspective on se place. Si on se place à court terme, je pense que ça va être difficile de retrouver les sommets. Même pour cette saison, je pense que le podium, ça va être compliqué parce que je ne suis pas sûr que l'OM puisse rivaliser dans les matchs importants. Voilà, quand je pense que même si on reçoit Lyon, etc., après, j'espère quand même que... J'espère avoir tort, mais pour cette saison, je pense que ça va être compliqué de réussir à refaire notre retard en assurant dans ces matchs cruciaux. Après, à moyen et long terme, je prétends pas m'y connaître quoi que ce soit. Après, je pense que la décision de la direction concernant tous les partenariats avec les clubs alentours, je pense que c'est quand même un plus pour la formation. Voilà, ça va ratisser un peu tous les bons joueurs du département. C'est déjà mieux que se concentrer sur un seul club que sur le centre de formation lui-même. Donc Donc voilà, donc après c'est vrai que ça, même au niveau de la valeur de l'équipe et après peut-être d'une potentielle revente, je pense que l'avenir il passera par là. Et je pense que l'OM a besoin de faire exploser 2-3 joueurs parce qu'on voit que McCourt n'a pas les moyens financiers de Real Ifi ou même du président de Monaco. Et je pense que si on veut commencer à acheter des gros joueurs, déjà se baser sur ce qu'on a déjà, réussir à faire monter toutes 2-3 joueurs comme Lyon ont pu le faire avec Fekir, parce que Fekir c'est quand même un joueur lyonnais. Quand on voit son explosion, même si cette année il est un petit peu moins bien, Fekir,
ah,
c'est quand même...
Ah, tu dis Fekir, mais tu peux parler des... Oui, quasiment des 11 joueurs lyonnais.
Voilà, après,
hein,
voilà.
Ils sont tous voilà, sur une formation.
Et maintenant,
gardien, hein.
Quand on regarde l'équipe de Lyon, elle est quand même très compétitive. Quand t'as à tous les postes, c'est limite pas meilleur que l'OM, mais quasiment.
International. Voilà, merci Julien, voilà. Parce que là, vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Coco, toi, ton avis ?
Ouais, je vais pas rajouter grand-chose de plus, hein, mais... Mais assez d'accord. Après, moi, j'ai envie d'être optimiste parce que bon, je sais pas si c'est mon côté supporter, hein, mais je trouve que quand même, depuis l'arrivée de l'Américain, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements positifs au sein du club. Faut pas oublier qu'on partait vraiment du néant. Hein, il y avait plus rien. Le club était laissé à l'abandon total par Margarita. Et comme l'a dit Julien. Il y a eu les partenariats qui ont été mis en place. Et je crois que dans le club aussi, ça s'est beaucoup structuré. Et je pense que ça, c'est positif et qu'on verra vraiment les fruits de ce travail-là dans quelques années, je pense. Donc soyons patients et j'espère que le meilleur est à venir.
Pas mal. Et toi, Abbas ?
Ouais, je reprends ce qu'il dit Julien. C'est vrai que là, avec le projet Next Game, qui est Next Génération, en fait, au niveau du centre de formation, c'est en fait... Héro, en fait, il a sondé tous les clubs amateurs et du coup, en fait, et comme à Lyon, je crois que Lyon, ils ont 26 clubs partenaires dans la région lyonnaise, plus deux clubs partenaires dans la région parisienne.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, l'OM est en train de
et
faire
là,
partenariat.
Et là, on a 22 clubs partenaires.
Ah, super.
Donc, du coup, c'est-à-dire, en fait, les jeunes, ils vont aller voir des matchs au Vélodrome pour redonner un peu, le goût de l'OM. Donc là, on commence à le voir. Eh ben, les clubs commencent, même les équipements, il y a des clubs qui commencent à avoir les équipements. Donc du coup aussi le but de Héro, c'est de plus faire d'empiler les joueurs, parce que là aussi le problème de l'OM à l'époque, c'est qu'en fait il prenait un petit dans un club, il le gardait un an, il le jetait. Et c'est ça aussi qui a donné l'amertume aussi aux parents et aux gens disant l'OM, eh ben, on est des Kleenex, on va là-bas. Et après le joueur, un mois après, eh ben, on le voit rebondir dans notre club, exploser, comme le joueur qui a joué le goal de Reims.
Oui,
le goal de Reims, Mendy, il joue en CFA avec l'OM.
Tout à fait.
Ils l'ont gardé un an.
Mais c'est bien de faire ses rappels. Parce que
ils n'ont même pas fait confiance à ce jeune. Regardez, au lieu d'acheter Pelé, on aurait pu le garder en doublure, ouais, ce petit.
Tout à fait. Ouais.
Et derrière, eh ben, regardez, il a fait un très très bon match contre l'OM
Pelé
et tout.
Il m'a fait des 5 coupes, lui.
Et là, par contre, voilà, il faut du temps. Par contre, en Ligue 1, il ne faut pas oublier aussi la saison 2015. Hein, que quand même, là, il ne faut pas tout jeter de l'ancienne direction, parce que les Thauvin, les Mendy, il y avait Payet, Lemina, Mboula, tout ça, c'est la brune. Bon, il a raté Mahrez, il a raté quand même le petit là de Chelsea, comment il s'appelle déjà ?
Le petit de Chelsea.
Kanté. C'est vrai qu'après, voilà. C'est vrai quand même.
N'Golo
Kanté, c'est vrai, pour 8 millions. Mais voilà.
C'est vrai, n'empêche.
Moi, je pense que là, c'est vrai que sur le casting, c'est que Garcia, moi, je ne peux plus me voir, franchement. Parce que là, franchement, on sent qu'il y a un malaise avec les joueurs. Le discours ne passe pour certains, mais pour vous dire, ben ça, c'est un article La Provence. Il y a deux jeunes dans le vestiaire qui sont levés, qui ont commencé à contester les décisions de Garcia.
Ah ouais.
C'est le gardien, c'est Fabri, c'est Fabri et comment s'appelle l'autre?
Escalès.
Je confonds parce que Fabri il est plus là. C'est Escalès et
ah oui.
Et Roca. Et ils ont contesté directement les décisions de Garcia. Donc c'est grave, des petits. Hein. C'est même pas des joueurs qui ont même pas deux matchs, trois matchs de Ligue 1.
Ah, ça prouve le mal-être, le malaise qui règne.
Mais après, moi, je pense que voilà, avec Lyon, Lille, je les vois pas. Ça va être compliqué. En plus, si Lyon il part en Ligue des Champions, il va tout miser sur la troisième place. Donc c'est mort. C'est mort. Au moins viser la Ligue Europa.
Ah, mais ils peuvent laisser des plumes justement aussi sur la Ligue des Champions. Tu peux te dire que Lyon, en préparant le match du Barça, peut-être.
Ah, mais moi je pense que c'est sûr que deux matchs.
Ouais.
Et Lyon, l'année dernière, on l'a vu, dès qu'ils ont perdu en Ligue, c'est là où ils ont explosé, ils ont rattrapé le retard de Marseille.
C'est vrai qu'ils finissent bien à chaque fois.
Ils finissent à chaque fois bien le championnat.
Ils ont une profondeur.
Ils ont une profondeur de banc.
Bah, écoutez, là, on va faire une courte pause. On va passer au qui suis-je. On va essayer d'être rapide. Voilà, donc qui suis-je, spécial olympique de Marseille.
On commence
Donc là, une courte pause, histoire de rafraîchir les mémoires. Et on revient pour un qui suis-je. Soyez attentifs, on y est.
No, I don't see it often, and I probably should have told you I heard this bad. I know, and I probably shouldn't want this so bad. It's weighing on me. Don't wanna wake up in the morning. Cannot undo what we did in this bed, and I can't get you out, so I gotta go. No, I'm not ready for you on me all alone, but.
Nous revoilà! Te casse l'émission, Coco. Rappelle le numéro à nos auditeurs s'ils veulent intervenir, s'il te plaît. Super, super, super. Donc, essaie de nous rappeler le numéro parce qu'on n'a pas bien entendu, s'il te plaît.
Pardon. Alors, 04 91 08 28 10.
Super. Donc là, on va passer à un qui suis-je? Qui suis-je spécial OM? Donc, à vous de deviner. Donc, Coco va nous faire une description saugrenue. Et il va falloir deviner de qui il s'agit.
C'est ça.
Allons-y, c'est parti.
Ça. Allez, on commence. Vous êtes prêts? Allez, donc, le premier qui trouve marque un point. Alors, je suis attaquant de l'OM entre 2002 et 2004. J'arrive à l'OM en provenance du Spartak Moscou. Originaire du pays de la vodka et de Gérard Depardieu. Tu m'as dit
Sitchev.
Dimitri Sitchev.
Exactement.
Pire, bravo, m'a volé mon joueur.
Donc, un point pour Julien. Donc, la presse me surnomme Michael Owen russe. Donc, quand on sait les performances
avec
de.
Sa tête ronde,
ouais. Ok. Alors, joueur de l'OM entre 89 et 92, je suis le troisième plus gros transfert de l'époque. 45 millions de francs. Derrière Maradona et Gullit. Je suis passé par le club de Tottenham. Ailier de formation.
Waddle.
Exactement.
Il est joué, ça.
International anglais, adepte de la coupe Mulet.
What?
c'est la même coupe que toi, Zizou.
La coupe tuche.
Ok, donc un point pour Elanzi.
Merci. Moi, je ne suis pas avec les Dimitri Sitchev, non, avec les joueurs.
J'étais pas né.
Alors, là, on a un joueur de l'OM entre 2006 et 2009. Une pointe de vitesse impressionnante.
Si c'est.
C'est pas possible, tu as les réponses.
Eh merde, non, je l'ai étudié lors de ma formation en préparation physique. Et c'est son préparateur qui m'a parlé de sa pointe de vitesse.
Ok. Ah ben, on a eu les mêmes contacts alors.
C'est que je connais ça.
Une petite anecdote sur Cissé. Vous savez que Giroud connaissait tous les employés de péage de la région d'Auxerre.
Ouais, c'est vrai.
Et qu'il était au courant à chaque fois que Cissé partait en soirée. Il y avait les mecs du péage qui l'appelaient pour lui dire.
Merci, mais nous, on veut que tu reviennes au jeu parce qu'on est chaud là.
Donc voilà, petite anecdote.
Merci bien, mais on est chaud là.
Alors, quatrième joueur. Alors, joueur de l'OM entre 90 et 93. Je suis connu pour mon caractère bien trempé. Non. Un jour à l'entraînement, je vais même jusqu'à sortir une arme pour impressionner mes coéquipiers.
Oulala, c'est quoi ça, fou, là. Oulala.
C'est Jim.
Non.
Rudy Voleur.
Je m'essaye à la télévision après ma carrière de footballeur.
Ah, Olmeta.
Originaire de l'île de Beauté.
Eh oui, Olmeta. Il y a qu'une Corse pour faire ça.
Et oui.
Excusez-moi, j'aime tous les Corses. Hein.
Ok, très bien. Donc, 3 points pour toi, Elanzi, c'est ça?
Ah, ma foi.
Il survole.
Ah, il est au-dessus, là.
Julien, là, d'ici chef, il est parti en PLS.
Allez, je suis un joueur de l'OM entre 2009 et 2014. Je commence ma carrière au sein de formation du Havre et passe par différents clubs en France.
Benjamin Mendy.
Non. Je passe la majeure partie
Mamadou
de mon...
Nyang.
Non. Je passe la majeure partie de mon temps sur les pistes de danse marseillaise.
Sous les...
Non. Mendy
sous les c'est Diawara. Diawara.
D'ailleurs, durant ma carrière, un entraîneur me conseillera de sortir les veilles de match afin d'améliorer mes performances sur le terrain. Ok,
et tu sais qu'on lui a autorisé à faire ça.
Ouais, bien sûr.
Ça a augmenté ses performances.
C'est un adjoint, je crois, de Bordeaux qui lui avait conseillé
ça.
Ça
m'a fait penser à Ronaldinho, mais ça n'a pas le même rendu.
C'est pas le même poste. Alors, allez, sixième joueur. Gardien de but entre 2001 et 2004. Gardien de but, je passe par différents clubs dans ma carrière.
Ah, t'écoutes, c'est qui? C'est personne?
Je sais pas, Thomas. Tu me fais des grâces. Vas-y. Notamment le Standard de Liège, Beşiktaş ou encore Lens.
Préparez-vous parce que c'est le dernier joueur, j'espère gagner.
Ah, ok. Ou encore Lens, je suis compatriote de Caleta-Car.
Runeux?
Ouais,
bien joué. Oh, on va pas s'attrouver le plus dur.
Attends, je peux faire le dernier?
Vas-y,
il
dernier,
va être très rapide, celui-là, si vous trouvez, vous êtes bon. Alors, je suis le joueur de l'OM entre 2007 et 2008. Considéré comme l'un des tout meilleurs arrière-gauche argentins, je suis prêté pour 6 mois et je ne dispute que 8 matchs officiels avec l'OM.
Torridi ?
L'OM décidera finalement de ne pas lever mon option d'achat, mais mon plus beau fait d'armes restera mon exclusion lors de mon premier match pour un attentat sur Pagis, alors à Rennes.
Ah, Evra !
Ah non.
Ah non. Ah, sur Pagis !
Evra, argentin.
Lionel Evra.
Entre 2007 et 2008. C'est Lionel Armando et Evra.
Je donne ma langue au chat.
Moi non plus.
Krupo Viesa.
Ah
ouais, 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 celui-là.
C'est
ouais.
Vraiment un flop, ce mec. On a jamais...
Très, très gros flop. Hein.
Merci. Donc, il est temps, malheureusement, de se dire au revoir. Au revoir, Julien. Hein,
allez, au revoir.
Là, cette fois-ci, fait bref.
Ouais, non, c'est bon. Allez, au revoir.
Ça t'a plu, j'espère.
Comment ?
Ça t'a plu ?
Ouais, nickel.
Super, Coco. Ben...
Zizou, écoute, merci. Continuez à nous suivre sur la page Footage de Gaulle. N'oubliez pas, soutenez.
Page Facebook, hein, Footage de Gaulle, Twitter like. Également. Et Abbas, voilà. Merci de ta venue,
ouais,
ton
merci,
expertise.
Merci à tous. Hein. Voilà, c'était super.
Voilà, donc suivez-nous sur notre page, effectivement. À la prochaine. Radio Galère te casse l'émission 88.4. On vous dit au revoir et merci.
Et merci.
Merci. Merci.